Réplique, l'héritage de Freud, avec Elisabeth Roudinesco et Fethi Benslama. En 1967, Laplanche et Pontalis écrivaient dans l'introduction à leur vocabulaire de la psychanalyse « L'aversion contre la psychanalyse s'exprime parfois sous forme d'aversion contre son langage. Nous n'en sommes plus là. L'idiome freudien est aujourd'hui comme chez lui dans la doxa. Il a été accueilli à bras ouverts par la pensée commune. » On emploie couramment les termes de névrose, de transfert, de surmoi ou d'acte manqué. Tous les lapsus, désormais, sont révélateurs. Le travail du deuil n'a de secret pour personne. Faire son deuil est même devenu la revendication première des familles des victimes. Et comme l'écrit Lévinas, on parle de l'homme qui aurait fait son Œdipe, qui aurait symboliquement tué son père et épousé sa mère, comme de celui qui a fait sa première communion. Bref, ce qui fait obstacle à l'intelligence de l'œuvre de Freud, ce n'est pas l'ignorance et l'évidence, ce n'est pas le scandale, c'est l'apparente banalité. Pour vaincre cet obstacle, pour retrouver la fraîcheur de la découverte, il faut revenir à l'époque où ce que disait la psychanalyse était inouï, où la langue naturelle ne possédait pas encore de mots, pour formuler les mouvements et les structures psychiques qui, au regard du sens commun, n'existaient tout simplement pas. C'est ce que nous commencerons par faire avec Elisabeth Roudinesco, qui publie justement une biographie de Sigmund Freud, et avec le psychanalyste Fethi Benslama. Et comme Freud était un fervent amoureux des humanités, je partirai des deux vers qu'il a mis en exergue de la Traumdeutung, l'interprétation des rêves. Flectere si nequeo superos aqueronta movebo. Si je ne peux pas fléchir superos les dieux d'en haut, je saurai mouvoir l'Achéron. Telles sont, dans l'Énéide de Virgile, les paroles de Junon, l'ennemi la plus puissante des Troyens. À la suite du jugement de Paris, qui a été favorable à Vénus, Junon a juré de tout faire pour empêcher Aîné, le fils de Vénus, d'atteindre le lieu où il doit fonder une ville nouvelle. N'ayant pas convaincu Jupiter de laisser Aîné épouser Didon, la déesse fait appel à une furie sauvage de l'Achéron. L'Achéron, dans la mythologie grecque et latine, est le fleuve que doivent traverser les âmes pour parvenir à l'Empire des morts. En quoi ces vers sont-ils significatifs? Peut-on dire qu'ils constituent, en 1900, date très symbolique de la parution de l'interprétation des rêves, le programme de travail de la psychanalyse? Elisabeth Roudinesco.
Oui, on peut le dire, parce que Freud avait d'abord une très grande conscience de qui il était, de la représentation de lui-même, quelquefois avec une formidable ambition, et il n'employait pas les mots n'importe comment. Et en effet, son programme, ça se répète d'ailleurs dans toute son œuvre, était de défier les dieux, c'est-à-dire les dieux d'en haut, à l'époque, les académies. Quelquefois d'ailleurs, il avait tort, mais enfin, toujours défier les dieux, sans d'ailleurs avoir le sentiment qu'il fallait faire une révolution des institutions, parce que en même temps, il était respectueux des académies. Il défiait les dieux d'en haut pour, en effet, repasser comme ça par les enfers. Mais il y avait aussi dans cette phrase, qu'on peut, parce qu'elle se répète, hein, dans sa référence permanente à Goethe, Méphisto, Faust, en permanence, l'ange et Jacob, hein, le combat de l'ange et Jacob, le combat nocturne où il n'y a pas de vainqueur, et en même temps, il y a Dieu aussi, il se réfère toujours à cette idée d'aller chercher des vérités dans les forces souterraines de l'homme pour les rationaliser. Donc Freud est un rationaliste progressiste, adepte des Lumières, mais en même temps, il repasse tout le temps par l'irrationnel et le culte, et d'ailleurs il est fasciné. Et c'est ça qui explique d'ailleurs son oscillation permanente, son adhésion temporaire, provisoire quelquefois, mais longue, à des théories qu'aujourd'hui on jugerait aberrante, hein, celle de Wilhelm Fliess, avec lequel il a été très ami.
C'est-à-dire en quoi, des théories aberrantes?
Parce qu'à l'époque, fleurissaient des théories sur la sexualité, il y en avait beaucoup, celle de la chronicité chez Wilhelm Fliess, qui étaient des théories tout à fait extravagantes. Mais
qui disait quoi? C'était quoi cette théorie?
Il faisait des calculs sur la vie, la mort et les anniversaires à partir d'une chronicité. Et il prétendait calculer les événements qui allaient arriver à un être humain à partir d'une chronicité biologique, en quelque sorte.
Ah oui, c'est ça.
Et mathématique. Enfin bon. Fliess était le représentant même du savant romantique qui était fin 19e siècle.
Chronicité biologique et aussi sexuelle?
Oui. Il faisait une espèce de sexualité biologique et il déduisait des périodes menstruelles de la femme, des explications sur les névroses. Alors, il y avait la névrose nasale.
Ah oui, c'est ça.
L'utérus correspondait au nez. Alors, donc, quand on lit ça aujourd'hui, on voit que c'est issu de cette médecine romantique du 19e siècle.
Et cette névrose nasale, je crois, vous dites... Il y a eu des femmes qui ont été opérées.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Le fameux cas Emma Eckstein, dont je raconte toute l'histoire, on lui attribuait son hystérie à une névrose nasale, donc elle a été opérée du nez. Mais Freud lui-même s'est fait opérer du nez par son ami Fliess. Tout ça pour dire qu'avant d'arriver à la vérité, on passe par une certaine errance. Ce que d'ailleurs Sartre a très bien montré dans le scénario Freud, on y reviendra. Donc, le savant il passe d'abord par l'errance, et donc par les forces souterraines. Et Freud, évidemment...
Mais est-ce que les forces souterraines, ce sont aussi, justement, c'est aussi le royaume des pulsions.
Oui.
Cette découverte qu'il a fait un peu malgré lui, le puritain qu'il était, de la puissance de la libido dans l'organisation de l'être humain. C'est aussi ça.
Absolument.
À cette époque, qu'on peut appeler les forces souterraines.
Absolument.
Fethi Ben Slama.
Oui, cette citation, enfin, l'exergue à la trame de Tung est intéressante parce que c'est le mouvement, en effet, comme venait de le dire Elisabeth, de faire redescendre l'âme du ciel et le mettre au niveau où, justement, cette situation l'indique, puisqu'il s'agit de Didon, en fait. Et donc, il s'agit, Didon, reine légendaire de Carthage, fondatrice. Et donc, c'est du côté des femmes que ça se passe. Et comme le montre la biographie d'Elisabeth Rodunisco, c'est à partir, justement, de ce que le corps des femmes se manifeste, et se manifeste dans la cité, à partir de ses douleurs, de ses souffrances, justement, que Freud va commencer à formuler, en tout cas, des nouvelles hypothèses qui ramène l'âme du ciel vers le corps et à partir du corps des femmes.
L'hystérie.
Une révolte contre la métaphysique dualiste.
Oui, c'est ça. Hein,
l'opposition entre les forces spirituelles et les forces souterraines. Vous dites le corps des femmes, mais dans votre biographie, Elisabeth Rodunisco, il y a, et c'est l'un des charmes du livre que vous avez écrit, ce que Barthes aurait appelé des biographèmes, c'est-à-dire des détails qui font rêver sur la vie de Freud. Par exemple, la liste de ses livres amis, des livres qu'il a aimés, le fait que en 1881, lorsqu'il faisait son service militaire et qu'il s'ennuyait, il a traduit Stuart Mill et notamment le volume où se trouvait un texte sur l'émancipation des femmes, mais aussi ce qui concerne sa vie amoureuse, si l'on peut dire. C'est-à-dire, il est fiancé, et je trouve ça extraordinaire, c'est fiançailles qui durent extrêmement longtemps, mais surtout, il envoie chaque jour à sa fiancée une rose et un vers latin. C'est le témoignage d'un monde totalement englouti, et ses fiançailles sont très longues, ils se marient, ils ont des enfants. Il abandonne toute relation charnelle avec sa femme assez vite, après son sixième enfant, parce qu'elle est fatiguée de ses grossesses répétées. Et donc, on voit Freud, qui a un rapport dans sa vie extrêmement puritain à la sexualité, contraint, par la force de son investigation, de découvrir l'importance extraordinaire, centrale, de la vie sexuelle, et construire à partir de là toute la théorie psychanalytique. C'est quand même assez fascinant.
ça faisait très longtemps que ça me fascinait. Je n'ai pas pensé de moi directement à Barthes, bien que j'appartienne à cette génération barthésienne. Mais l'idée de réintroduire la vie privée, qui était un objet traité par les Américains et pas par les Français, me paraissait essentielle. Et c'est sûr que quand j'ai beaucoup parlé avec Jacques Le Goff, parce que j'avais une hésitation à faire une biographie, mon modèle était ce qu'il avait fait sur Saint-Louis, je me souviens de cette phrase où il m'a dit « je voudrais savoir comment il vivait au jour le jour et ce qu'il mangeait ». J'ai dit « c'est promis ». Et donc, il y avait ce côté... l'objet vie privée qu'il faut prendre en compte dans l'histoire. Et avec Freud, c'est tout à fait possible. Nous avons les 1500 lettres à sa fiancée. C'est-à-dire que c'est un tel épistolier qui parle de son corps, qui parle de sa vie et qui y attache une très grande importance. Donc, j'ai tenu aussi à ce que ça devienne un objet d'histoire. Il n'y avait pas de raison de ne pas traiter cette question-là, qui, comme vous dites, est tout à fait essentielle. Alors, pour revenir à cette question de la sexualité, oui, puritain, mais j'ajouterais quand même quelque chose. Il a un culte de l'abstinence, précisément parce que il y a... C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a accusé d'être un violeur abuseur sexuel, parce qu'on l'a accusé du contraire de ce qu'il était. Mais il y a quand même quelque chose qui est très frappant, d'où vient en effet la psychanalyse, que j'ai repéré très tôt, je pense que je suis la première à le dire, c'est la théorie des substituts. C'est-à-dire, Freud est endogame. C'est des familles endogames, juives, je décris. Et quand il tombe amoureux, à 16 ans, d'une première jeune fille, il regarde la mère. Donc, Freud regarde toujours dans une femme, une autre femme. Il cherche, avec un homme, c'est d'abord un ami, puis un ennemi, mais une femme, il y a une autre femme. Et il voit la mère, tout le temps. Et donc, il tombe amoureux de cette première jeune fille parce que la mère l'intéresse. Ensuite, je regardais, quand il tombe amoureux de sa femme, Martha, il s'occupe de la mère. Mais parce qu'il veut arracher Martha au préjugé obscurantiste de sa mère. Mais en même temps, il aime la sœur de Martha. C'est-à-dire, il devient immédiatement ami. C'est pas charnel, mais il devient ami de la sœur. Et donc, Freud, il faut toujours qu'il y ait de la famille, il faut toujours qu'il y ait des substituts. Et en fait, après, il va élaborer cette théorie comme quoi le premier objet d'amour, c'est la mère, hein, qu'on retrouve chez Proust, évidemment. Et donc, cette idée qu'il y a toujours l'image d'un substitut, elle existe depuis longtemps, mais il en fait en quelque sorte une théorie.
Oui, je crois que Freud est à cheval sur une césure du monde ou d'un moment de retournement du monde, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire, par un côté, il appartient à l'ancien monde et de l'autre côté, il participe au retournement du monde. C'est une phrase de Rilke que j'aime beaucoup. Et donc, il est à cheval, il est les deux. Il est à la fois un côté conservateur dans sa vie et de l'autre côté, c'est un révolutionnaire.
Absolument.
Et je pense que les gens qui apportent des pensées bouleversantes sont souvent des gens qui sont sur la césure. Ce qui était n'est plus et ce qui va venir n'est pas encore.
Exactement.
Et donc, c'est Freud est celui qui est vraiment à cette place-là.
Oui.
Et il le vit comme une souffrance. Et en même temps, comme, mais bien entendu, il en a conscience. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
Et il le dit tout le temps. Je ne profite pas moi-même de mes propres découvertes. Je suis un homme du passé. Mmh. Et en même temps, on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'un contexte, il ne faut pas être anachronique, mais à l'intérieur d'un contexte, il prend des positions très progressistes. Ça m'a beaucoup frappé. C'est pour ça que je l'ai qualifié de... conservateur éclairé, penseur des lumières sombres, hein, les deux, et héritier du romantisme. Je crois que un des plus beaux textes qui a été fait sur lui à ce sujet, c'est Thomas Mann,
absolument,
sûr,
oui.
Parce qu'il est à la jonction de ces deux mondes. Et puis, quand même, on en parlera peut-être, une époque terrible.
Oui.
Terrible. Enfin, il traverse le 20e jusqu'en 1939. La guerre mondiale, la montée du fascisme, c'est quand même très difficile.
Mais en même temps, vous dites en effet, il est à la charnière entre deux mondes. Et ce qu'écrit Stefan Zweig dans le beau texte qu'il lui a consacré, c'est que si Freud est arrivé au problème sexuel, ce n'est point parce qu'il l'a voulu. Au cours de ses recherches, le problème est venu de lui-même au-devant du psychologue, dirais-je, du psychanalyste. Voilà, tout d'un coup, il a découvert que, je cite encore Stefan Zweig, toujours ou presque toujours, la névrose est causée par un désir sexuel qui ne peut s'accomplir et qui, transformé en rétention et inhibition, pèse sur la vie psychique. Donc là, vous avez raison, Elisabeth Runisco, la vie privée est intéressante, non pas parce qu'on vient y satisfaire une curiosité de voyeur, mais parce que cet écart entre la découverte freudienne et la vie qu'il mène en dit long sur le cheminement même de la découverte freudienne. C'est pas ce qu'il voulait trouver.
Mais absolument.
C'est ce qu'il a trouvé quand même.
Il y a l'imprévisibilité. C'est l'imprévisibilité.
Oui. Mais c'est-à-dire qu'on ne découvre pas comme ça de rien. On ne découvre qu'à partir de l'ancien. En étant en contact avec l'ancien et en ayant été formé par lui, qu'à ce moment-là, on peut s'arracher pour aller plus en avant.
Il est terriblement viennois aussi, parce que c'était Vienne et les Juifs viennois. C'est-à-dire qu'il appartient vraiment à la même culture que Stefan Zweig. C'est pour ça que j'ai bien mis Stefan Zweig et Thomas Mann comme deux pôles d'identification pour Freud. Parce que Thomas Mann, c'est la culture allemande, dont il s'est toujours réclamé. Stefan Zweig, c'est évidemment les Juifs viennois avec cette mélancolie de la nostalgie du monde ancien. Mais ce qui est caractéristique aussi de Vienne fin de siècle et des débuts de la Belle Époque, c'est cette idée d'aller trouver la modernité dans la Renaissance, dans l'Antiquité, dans les tragédies grecques. C'est-à-dire ce mouvement permanent de Freud. Et puis aller chercher Édipe et pas les Atrides. Hein. Ça, c'est aussi autre chose. Parce que les Labdacides, la tragédie de Sophocle, il avait le choix entre les deux. Hein. Dans Totem et Tabou, c'est les Atrides, et par ailleurs, dans les généalogies familiales, choisir la tragédie d'Édipe, c'est choisir la destruction du génos familial par la famille elle-même, c'est-à-dire les turpitudes psychiques qui détruisent la famille. Or, il se rend compte que le modèle d'Édipe ne convient pas, parce que Édipe grec ne couche pas avec sa mère par désir et ne tue pas son père par désir, mais parce que
par ignorance,
parce que les dieux commandent le destin des hommes. Donc, il voit que ça ne va pas. Et comme il voit que ça ne va pas, il faut introduire un autre héros, Hamlet. Parce que là, ça marche. La névrose moderne, c'est Hamlet. Alors, il en fait un hystérique.
Donc, c'est Oedipe revu par Hamlet, si
alors,
on peut dire.
C'est toujours Oedipe revu par Hamlet. Ouais. D'ailleurs, Starobinski l'avait très, très bien montré dans un beau livre. Mais, si vous voulez, il n'y a pas d'inconscient qui détermine l'homme sans conscience coupable que l'homme a de sa destinée. Et ça, il le puise dans le personnage d'Hamlet, c'est-à-dire l'hésitation à venger le père avec le spectre qui est derrière lui. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les deux figures. Elles sont indispensables. Et historiquement, il amène Hamlet 1897 tout de suite. C'est-à-dire, Freud, je ne sais pas s'il a conscience exactement de ce que je viens de dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas amener Édipe sans mettre Hamlet à côté. Mmh. Et historiquement, on a quand même les deux grandes figures, c'est-à-dire les dieux de l'Antiquité, et puis le christianisme, et puis le judéo-christianisme, puisqu'ensuite il y aura Moïse. Mais dans Totem et Tabou, qui est un livre de 1911, qui est l'idée que pour contenir les pulsions des hommes après le meurtre du père, il faut instaurer la loi. C'est le modèle des Atrides. Hein. Ce n'est pas le modèle des Labdacides d'Édipe.
Il y a, dans la façon dont Freud aborde, et le recours de Freud à l'Antiquité, c'est qu'il y a au fond chez Freud l'idée qu'il y a une part de l'âme, de l'espèce humaine, de la psyché, qui est stable. Donc on peut aller chercher ces expressions dans les époques les plus lointaines. Et il y a une partie qu'on pourrait dire métastable et qui va varier selon les époques. Et donc, en revenant vers l'Antiquité, au fond, c'était un moyen d'approcher cette part de la psyché de l'espèce humaine, qui, elle, reste malgré tout constante, malgré les changements historiques. Et le recours, donc, ce recours, c'est une tentative de montrer et de rendre compte qu'il y a cette partie qui est stable de l'espèce humaine.
Absolument. Et c'est pour ça qu'il dit que le primitif est en nous.
Oui, voilà.
Donc, il n'y a pas de discours colonialiste chez Freud.
Oui, puisque le primitif est là.
Évidemment.
Alors, le primitif
enfin, le primitif entre guillemets, mais il est en
mais,
nous pour lui.
Alors là, je fais un premier bond vers aujourd'hui. Peut-être aussi, sommes-nous à la charnière entre deux mondes, peut-être que le monde moderne de Freud est le monde ancien pour nous, parce que le complexe d'Œdipe a conduit Lacan, par exemple, à des réflexions extrêmement profondes et subtiles sur le nom du père. Et aujourd'hui, que voit-on ? Et je voudrais savoir si quelque chose a été changé dans cette structure fondamentale découverte par Freud. Bien, nous sommes entrés, comme dit Renaud Camus, dans la civilisation des prénoms, par exemple. Moi, dans les soirées, les gens se présentent, dans les dîners, par leur prénom. Ils n'existent que par leur prénom. D'autre part, le père et la mère sont des signifiants abandonnée au profit du papa et de la maman. Et le papa semble voué à devenir une maman comme les autres. Au nom de la lutte contre le genre, on va supprimer la dénomination d'école maternelle, mais l'école devient maternelle de part en part et de bout en bout. On le voit tout récemment avec la suppression des notes, les notes bienveillantes, des notes en couleur. C'est ce que Michel Schneider a appelé « Big Mother », ce maternage généralisé d'une société et d'un État de plus en plus compassionnel. Est-ce que cette mutation est importante? Est-ce qu'elle a des répercussions sur la psyché des individus? Est-ce que la psychanalyse n'est pas amenée par tout ça, sinon à réviser ces schémas, du moins à accueillir d'autres dispositifs que ceux auxquels elle était acclimatée? Isabelle Trudinesco.
C'est un vaste débat. D'abord, je vais vous répondre quand même sur Lacan. Je ne crois pas que Lacan, qui était un moderne, ait figé de cette façon-là le nom du père. J'ai remarqué, moi, que dans l'histoire de la psychanalyse, ce qui est capital, c'est que chaque maître fondateur, sinon il ne l'est pas, revient au modèle antique, mais d'une façon différente. Chez Lacan, le modèle de la famille, certes, il y a le nom du père, mais attention à ce qu'on en fait. Mais ce qui est capital chez Lacan, c'est que Lacan, c'est après Auschwitz. Et Lacan va prendre comme modèle dans l'Antiquité, non pas du tout Édipe, qui ne l'intéresse pas, certainement pas le complexe, qui ne l'intéresse pas à juste titre, Antigone. Pourquoi Antigone? C'est-à-dire l'héritière, la fille, vouée à l'horreur d'une destinée. Et il en fait un personnage qui n'est pas celui qu'a fait Hegel, puisqu'il dit qu'elle incarne jusqu'au bout la jouissance de la mort, c'est-à-dire la capacité, envers et contre tout, d'accepter un destin qui fait qu'elle ne pourra pas procréer, que donc elle est vouée aux lois de la famille. Et il fait d'Antigone l'héroïne moderne. Et ça, c'est capital, parce que c'est la destruction est arrivée. Il ramène ça à Auschwitz, et donc il change de modèle familial. Et qu'est-ce qu'il montre, au fond? D'une part, la jouissance des femmes. Ça, c'est capital chez Lacan, ce n'est pas du tout chez Freud. Et d'autre part, le personnage d'Antigone comme incarnation alors de toute la puissance de destruction. Et en revanche, quand il commente Édipe, il ne prend pas Édipe roi de Sophocle, il prend Édipe à colonne. Édipe à colonne, c'est-à-dire celui qui est entouré, appuyé sur Antigone et qui a les yeux crevés, etc. Donc on change de modèle. Et à partir de là, je ne crois pas que, et Lacan le dit, il ne veut pas réinstituer. Lacan dit à un moment donné, notamment dès 1938, Freud a revalorisé symboliquement la fonction paternelle qui disparaissait dans la société sous la forme du patriarcat exacerbé. Et donc il dit, il ne faut pas revaloriser ces valeurs-là, il faut accompagner par une fonction symbolique, l'époque moderne. Donc moi, je pense que sur ce plan-là, si on pense la dynamique de Freud aujourd'hui, je crois en effet que le complexe d'Édipe tel que le pensent les psychanalystes, ça ne tient pas, c'est trop psychologique, mais que bien sûr l'œuvre de Freud nous permet toujours de penser le passage de l'ancien au moderne. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que les lectures de Jacques Derrida étaient tout à fait intéressantes.
Oui, mais attendez, vous dites vous-même, Elisabeth Trinesco, dans votre livre, l'hystérie était devenue dans toute l'Europe l'expression d'une révolte impuissante des femmes contre un pouvoir patriarcal, hanté par le spectre d'une possible féminisation du corps social.
Et oui.
Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ce pouvoir patriarcal s'est complètement effondré. D'où la question, est-ce que tout ça a des répercussions sur la clinique, d'une part, et d'autre part aussi sur la théorie psychanalytique.
Oui. Alors, moi, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que la psychanalyse nous montre, c'est qu'il y a une part de l'humain, de l'homme, qui est indéménageable.
Voilà.
Bon. Et cette part, quoi qu'on fasse, alors, sauf quand il s'agit de régimes totalitaires qui veulent la changer, la toucher, et en général, ils échouent après un chaos. Bon. Mais par contre, il y a une part qu'on pourrait appeler métastable, c'est-à-dire qu'il va changer selon les époques, selon les cultures. Et très souvent, on a l'illusion où on regarde cette part stable et on est dans un discours normatif, comme parfois les psychanalystes peuvent en tenir, ou bien si on se situe dans ce côté métastable, eh bien, on va dire bah, tout change, tout fout le camp, etc. Bon, je crois que c'est ni d'un côté ni de l'autre. et que la condition humaine est faite de ces deux. Elle est, on pourrait dire, elle est quantique au sens où ce sont deux réalités qui coexistent et que chaque fois, on a besoin de les repenser d'une manière, je dirais, dialectique.
Oui, mais Veti Ben Slama, je vous entends. Je vais vous citer maintenant un autre psychanalyste, Charles Melman. Nous sommes en train d'abandonner une culture liée à la religion qui contraint les sujets au refoulement du désir et à la névrose pour nous diriger vers une autre où s'affiche le droit à l'expression libre de tous les désirs et à leur pleine satisfaction. Et, nouvelle citation, Julia Kristeva, aussi psychanalyste, a écrit un livre intitulé « Les nouvelles maladies de l'âme ». Donc, est-ce que ce changement d'économie, ou ce changement de, je ne sais pas comment l'appeler, nouvelle réalité culturelle, provoque des maladies de l'âme non répertoriées par la psychanalyse des origines? Voilà la question que je me pose.
C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a un aspect, sans doute, de manifestation qui sont liées au milieu culturel, à une période bien déterminée. Et on le voit bien, quoique aujourd'hui la mondialisation tente à homogénéiser.
Oui.
Bon. Mais ce que dit la citation de Melman, elle correspond à quoi? Bah, si on prend ça comme ça à la lettre, on serait dans un monde où la folie, quoi. Je crois qu'il y a ce que dit Melman est plutôt lié à ce que opère aujourd'hui le capitalisme. Lorsqu'il est livré à ses propres déchaînements, je dirais, et qu'à ce moment-là, il miroite et il crée des conditions telles qu'on a l'illusion que tout est possible.
Oui.
Mais ce n'est pas vrai, je veux dire, ça c'est... Bon, pour partie, et je pense que certaines parties des hommes dans le monde peuvent être touchés, affectés par cette idée que tout est possible et que, voilà, on peut... Mais ça, c'est déjà une vieille histoire. Hein. Si tout est possible, alors, si Dieu est, etc., tout devient possible. C'est une vieille histoire. Et cette idée qu'on va entrer dans un chaos complet, elle est, je crois...
Grand fantasme.
Oui,
c'est un grand fantasme.
Pardon. Non, allez-y.
Sur les nomenclatures, il y a une chose qui est très frappante pour tout le monde. Ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'ai appelé ça société dépressive, ce qu'on appelle aujourd'hui dépression, si on regarde bien dans ces nomenclatures, englobe ce qu'on appelait hystérie à la fin du 19e siècle. Autrement dit, les nomenclatures changent pour désigner des mêmes phénomènes, mais qui ont, disons, changé avec l'histoire. Il est évident qu'aujourd'hui, l'hystérie féminine n'a plus la même connotation qu'elle avait dans les sociétés de frustration. Elle est différente. Et d'ailleurs, le mouvement psychanalytique s'en est rendu compte, puisque dans les années 60, avec Heinz Kohut et d'autres, on a introduit la névrose narcissique, c'est-à-dire dans des sociétés libérées des frustrations abominables quand même.
Oui.
On ne va pas retourner à la fin du 19e siècle. On n'avait pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec sa fiancée. C'était une souffrance, c'était des souffrances. Bon. Mais si vous voulez, on s'est aperçu ça, c'est d'ailleurs dans des sociétés démocratiques. Je rappelle d'ailleurs, comme l'a très bien dit Veti Ben Slama, c'est les sociétés démocratiques où s'est épanouie la psychanalyse, pas les sociétés totalitaires. Et le monde islamique qui la hait. Donc, oui. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, on s'est aperçu de ça et on s'est demandé qu'est-ce qu'il y a comme pathologie dite narcissique dans un monde où il n'y a plus les frustrations. Et on a travaillé, bien entendu, là-dessus. C'est-à-dire que c'est là qu'on s'est aperçu que ce que Freud avait apporté devenait très intéressant, non pas du tout avec l'idée de tout fout le camp, mais que c'est, au fond, la liberté du désir fait apparaître l'angoisse liée au désir lui-même, indépendamment des questions sociales. Donc ça, c'est un invariant qui reste. Beaucoup plus que l'idée du tout fout le camp. Ça ne va pas, à mon avis. Bon. Et du coup, en effet, parce que le mouvement psychanalytique, il a aussi évolué avec le temps. Je l'esquisse dans le livre sur Freud, parce que vous avez une querelle des anciens et des modernes à partir de 1920, qui est fascinante. Hein. Les Kleiniens retournent à l'objet maternel, Freud maintient...
Les Kleiniens, c'est les disciples de Mélanie Klein.
Mélanie Klein, qui est formée en Europe centrale, qui arrive à Londres, et là, il y a une vraie querelle des anciens et des modernes. Et Freud...
Les anciens, c'est qui c'est...
Alors, Freud. Freud et Vienne. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient nuls. Hein. Ça veut pas dire qu'ils ont... C'est une vraie querelle comme je les aime. Les deux parties ont raison. Et c'est fascinant. Et c'est fascinant parce que Mélanie Klein veut aller plus loin dans l'analyse des enfants. Et elle a raison. Et sortir de l'idéologie du meurtre du père pour aller vers l'objet primordial, la mère. Et Freud n'est pas d'accord avec ça. Oui. Mais il dit cette phrase étonnante la vérité triomphera, c'est-à-dire j'accepte la querelle et l'avenir montrera qui a raison quand même. Il était capable aussi de ça. Et donc aujourd'hui, et plus tard, il y aura d'autres querelles des anciens et des modernes. Lacan, Heinz Kohut aux États-Unis. Donc le mouvement analytique n'est pas du tout...
Mais que diraient les modernes d'hier, Mélanie Klein, etc., de cette société, du maternage généralisé? On parle beaucoup du meurtre du père, mais la séparation de l'enfant et de la mère est, me semble, aussi un problème. Et aujourd'hui, elle tente à être sans cesse différée. Des instruments, d'ailleurs, comme le portable, le permettent, puisqu'on se sépare sans jamais se séparer. Là encore, est-ce que ça a des incidences sur la vie psychique? Est-ce qu'on le voit dans certaines angoisses, dans certains désarrois des patients?
Mais je crois que s'il y a des modifications, elles sont au niveau des expressions symptomatiques, c'est-à-dire au niveau du symptôme. Et là, vous pouvez trouver, en effet, des variétés symptomatiques d'une époque à l'autre. L'hystérie du temps de Charcot et de Freud, ces formes-là, on ne les voit plus aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, on les voit dans d'autres pays où la modernité est entrée. Et, bon, donc, il y a des nouvelles...
Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple?
Où?
Vous dites ici, chez nous, puisque on ne voit pas ces formes d'hystérie.
Bon, je vais prendre un exemple.
Par exemple,
l'addiction à l'écran est une nouvelle forme, une manifestation symptomatique, parce que la culture a mis sur le marché un nouveau produit. Bon, avant, il n'y en avait pas, mais les addictions existaient.
Oui, elles étaient moins visibles.
Elles étaient moins visibles. Et là, aujourd'hui, bon. Alors, il y a évidemment quelque chose qui peut, à un moment donné, prendre une forme symptomatique généralisée, presque. Nous sommes tous un peu addictés à nos écrans, mais il y en a d'autres qui vont l'être davantage, et ils vont en être malheureux, et à tel point qu'ils vont être aliénés. Et là, on voit bien que ces modes d'aliénation ne sont pas différentes, en réalité, fondamentalement, d'autres modes d'aliénation et d'addiction. Vous voyez ?
Oui.
Donc, il y a cette variation des symptômes,
mais je
reste convaincu qu'il y a de l'indéménageable dans l'espèce humaine, sauf lorsqu'on essaie de justement toucher à cela. Et à ce moment-là, ça peut produire des désastres. Mais nous avons vu ça à des époques. Le nazisme l'a tenté, les Khmers rouges ont tenté, les radicaux islamistes tentent de faire des déménagements comme ça, de structure de la condition humaine, mais ils n'y parviendront pas.
J'ajouterais, je sais que là, il y a un point d'accord avec Fethi Ben Slama, dès qu'on tente de toucher au génos. C'est-à-dire le génos,
ce qui est le lieu de la naissance.
Voilà,
de la
génos,
génération.
C'est-à-dire
la génération.
Et donc le génocide est au cœur de toutes ces questions. Et dès qu'on touche à, je dirais, l'essence de l'être humain, qu'on essaye, je dirais, d'empêcher des naissances comme en Chine, en obligeant des familles à n'avoir qu'un enfant, ou qu'on interdise l'avortement pour obliger les femmes à en avoir 17, dès qu'on veut, que des États veulent contraindre sur ce plan-là, au fond, c'est la barbarie qui revient. Mais la barbarie, elle peut revenir partout, en effet, et sur ce plan, c'est vrai que Freud est un maître de la civilisation, je crois que vous l'avez dit une fois, psychanalyse est une avancée de la civilisation sur la barbarie, terme que j'ai pu reprendre. Et c'est pas un hasard si, comme toujours, elle a eu comme ennemi fondamental, toujours, les dictatures. Le nazisme, sous une autre forme, le stalinisme, pas à la même époque et pas de la même façon. Et puis, évidemment, les pays islamiques où Freud vomit, parce que le corps de femme n'est pas libre, comme d'ailleurs vous l'avez...
Et vous le montrez très bien, notamment dans la déclaration d'insoumission Fethi Ben Slama. Mais revenons sous nos climats, plus tempérés quand même, parce que vous avez parlé de l'addiction Fethi Ben Slama. Et un autre psychanalyste, Jean-Pierre Lebrun, on parle aussi dans Un monde sans limite, un de ses livres. C'est très intéressant parce que il dit quels sont les états limites, les toxicomanies, les alcoolismes, les troubles des conduites alimentaires, les violences et délinquances systématisées, les suicides sous toutes leurs formes directes ou indirectes, manifestes ou cachées. Les états limites sont des patients qui n'auraient pas bénéficié de parents pouvant constituer des cibles identificatoires suffisantes pour autoriser que se forme la structuration de la personnalité. Leur organisation psychique ne renverrait pas au modèle génital et œdipien. Et donc ces états limites, justement, ils les classent dans ce que Christopher appelle appelle les nouvelles maladies de l'âme. Quelque chose là arrive du fait d'une triangulation rendue peut-être aussi très difficile par la confusion des rôles à laquelle nous assistons. Il y a une sorte voilà aussi, quelles sont les répercussions de la marche très rapide vers l'indifférenciation de nos sociétés dans la structuration de la psyché des individus. Il semblerait que ça provoque ce qu'on appelle les états limites, et notamment l'addiction, par exemple.
Mais cette question des états limites est une question d'abord très, très, très controversée,
oui,
et très ancienne. Oui. Elle date des années 50.
Ça existait déjà,
oui.
Sous d'autres formes.
C'est une invention des années 50.
Oui. Donc, pour désigner quelque chose, pardon, qui existait déjà. Parce que ce qui est décrit là existait à Vienne.
Oui, c'est ça. Alors, c'est existé, mais comme d'habitude, toujours, les fléaux, à un moment donné, que produit la culture, les fléaux sociaux, vont donner des formes nouvelles à ce qui était déjà là depuis très longtemps. Et notre regard, qui est un regard dans son temps, pris aussi avec les symptômes qui sont produits, a du mal à discerner dans ce qui arrive. Moi, je crois que souvent, très souvent, moi, je le dis, mais ça existe dans toutes les sciences humaines, pas seulement chez les psychanalystes, lorsqu'on saisit d'une... Il y a de l'exagération. L'exagération permet de mieux voir, parce qu'on n'a pas de microscope, et souvent, on passe par l'exagération, par un bout de vérité, pour le généraliser. Et je ne dis pas que le brin ne pointe pas quelque chose qui est juste, mais il y a... en tirer des conséquences, exagérer, voilà. Et l'exagération sert parfois comme microscope dans les sciences humaines.
D'accord.
Alors, regardez, Freud, ce que montre la biographie d'Elisabeth Rodenesco, c'est comment sans cesse il revient sur les hypothèses et l'explication qu'il formule, pour les reformuler, pour les retravailler. Eh bien, c'est ça à quoi, je crois, aujourd'hui, la psychanalyse doit revenir à ne pas prendre une formulation, une hypothèse pour quelque chose de vrai, d'une manière générale.
Être un peu plus modeste.
Être plus modeste et à remettre au travail.
Il ne faut pas avoir peur de l'avenir et il ne faut pas annoncer des catastrophes. Moi, le discours catastrophiste de ça, on va vers une indifférenciation, etc. On disait la même chose à la fin du 19e siècle. Je rappelle que les démographes disaient « Si les femmes travaillent, elles ne feront plus d'enfants, c'est la fin de la famille. » Le thème récurrent.
Parce que l'indifférenciation est aujourd'hui un programme. Ce n'est pas une catastrophe.
Oui, mais
si on met en cause la différence des sexes au nom des théories du genre, c'est bien pour dire qu'il faut aller vers autre chose. Il faut s'arracher.
La théorie du genre, elle a, qui n'est pas une théorie d'ailleurs. Tout ça, c'est des moments féconds de la pensée. Ça n'arrivera pas dans la réalité sous les formes catastrophiques. Soyons optimistes.
D'accord.
On a toujours vu, et Freud l'a dit, qu'en dehors des guerres, des destructions, de la destruction du génos, ce qu'on appelle, tout de même, les sociétés étaient capables aussi de se réguler avec une nouvelle modernité. Je suis résolument moderne.
Bon, très bien.
Donc, non, mais ça n'arrivera pas à l'infini que le crochet.
Je ne parlais pas en mon nom, je citais un psychanalyste. Je vais vous poser la question sous un autre angle, et j'espère que vous ne parlerez pas de catastrophisme. Il y a une phrase de Freud qui m'obsède. Et là, je crois qu'un changement est intervenu. Freud dit « Tous ceux qui veulent être plus nobles que ce que leur permet leur constitution succombent à la névrose. » Parce qu'il imputait l'accroissement des maladies nerveuses à la répression de la vie sexuelle par la morale sexuelle civilisée. Bien, ma question est celle-ci. Y a-t-il aujourd'hui des patients ou des individus qui veulent être plus nobles que ce que leur constitution permet ? N'est-on pas entré quand même dans un âge nouveau ? Freud disait, j'apporte la troisième grande vexation à l'humanité. Il y a eu Copernic, c'est le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Darwin, l'homme descend du singe. Et moi, je vous explique que la conscience n'est pas la maître chez soi, puisque le psychisme lui échappe. Bon, mais si le langage freudien est entré dans la langue commune, c'est précisément parce qu'on ne vit plus tout ça comme une vexation, que la vie sexuelle a été intégrée à la passion du bien-être, dont Tocqueville disait déjà que c'est la passion dominante des démocraties, qu'on a des exigences, et les gens se tournent vers le comportementalisme en disant, trouvez-moi une solution pour que je ne sois plus impuissant, je ne sois plus
ça. La bêtise contemporaine,
qui existait
déjà.
Je suis d'accord avec vous.
Qui existait déjà.
Donc, il y a une... Il y a une mutation qui a eu lieu et quelquefois, peut-être que les psychanalystes doivent un peu réparer le surmoi défaillant d'un certain nombre de gens qui oublient précisément les exigences ou les obligations d'une certaine noblesse.
Hein. Oui,
donc, alors, voilà, là, il me semble que le changement existe et je suis pas catastrophiste en le disant.
La noblesse, Freud, dans cette phrase que vous avez citée, c'est les idéaux, l'idéal.
Oui.
C'est-à-dire que des gens essayent de vivre dans des idéaux ou dans un idéal au détriment de leurs conditions, de leur réalité. Bon, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, presque, je pense, par des formes de communication généralisées, c'est plus tellement le cas. C'est au niveau de la communication. C'est-à-dire que plutôt, on va dans le sens contraire des idéaux et on a même quelque chose qui est, et peut-être là c'est un aspect, mais ça ne durera pas, à mon avis, où on essaie de des ravalements, au fond, de montrer la condition la plus ravalée et le cynisme. Donc une forme de désidéalisation qui existe et qu'on voit dans la communication entre les êtres humains. Mais il y a, je pense, des idéaux souterrains qui sont là, et les idéaux ont une fonction, ce que vous avez appelé...
Souterrains, donc dans l'Achéron, il y aurait des idéaux maintenant.
Mais non, mais justement, tout n'est pas qu'Achéron.
Oui, oui.
Parce que si tout n'est qu'Achéron, alors là, on est justement dans le magma, dans le magma pulsionnel, etc. Mais il n'y a pas que ça, l'humanité. Ce que Freud montre, c'est que la civilisation... Et sans cesse, c'est l'avenir d'une illusion porte là-dessus. C'est comment il y a la contrainte, en fait, de plus en plus de contraintes, de frustrations, et que les hommes doivent faire face plutôt à de plus en plus d'exigences. Et si vous regardez, la vie moderne est beaucoup plus exigeante vis-à-vis des êtres humains par d'autres façons.
Ah oui, ah oui, moi, je pense. Oui.
Mais oui,
je suis assez d'accord.
C'est intéressant.
Ouais.
Et la contrainte est devenue même, je dirais, quasiment insupportable. Et à ce moment-là, les gens se révoltent contre la culture, contre la société, contre la civilisation. Ils lui en veulent parce qu'elle leur impose.
Mais c'est une contrainte qui prend quelle forme, par exemple ?
Regardez nos vies dans les villes, et le monde urbain a envahi aujourd'hui partout. Et regardez les contraintes dans lesquelles nous vivons. Alors certains peuvent se permettre, grâce à leurs moyens, à leurs conditions de classe, de diminuer ces contraintes. Mais regardez autour de nous, autour de Paris, les contraintes dans lesquelles vivent les gens. Et elles sont très grandes. Beaucoup plus grande qu'elle ne l'était ou ne le sont dans le monde paysan d'il y a quelques...
Ah, vous diriez ça.
Ah oui, je dirais. Je pense que même la grande contrainte aujourd'hui, c'est l'urbanisme généralisé qui modifie la civilisation et introduit des frustrations qui deviennent de plus en plus insupportables.
Oui, il y a un urbanisme qui est en effet... Très, non seulement contraignant, mais enfin quelque chose d'accablant. À cet égard, on peut se réjouir, mais c'est une parenthèse qui n'a peut-être rien à voir du refus du projet de la tour triangle dans le 15e arrondissement.
Mais les psychanalystes s'intéressent à ça.
Parce que ce n'était pas une tour qui pouvait épanouir les individus. Mais enfin bon, Isabelle Troudinesco.
Oui, tout ça. Moi, je ne dis pas que vous tenez un discours catastrophique, mais en revanche, je vais dire quelque chose qui est très actuel et qui renvoie aussi à l'époque de Freud. Ce à quoi on assiste aussi, c'est à un refus généralisé des patients des fausses nomenclatures. Ce qui va arriver après le cognitivisme et après les excès des psychanalystes à vouloir tout normalisé, et on le voit, c'est le refus des nomenclatures. Ça s'est vu en psychiatrie. La psychiatrie est devenue un discours fou, avec 670 nomenclatures pour désigner telle affection. On n'est plus du tout hystérie, dépression, on est dans des choses incompréhensibles. Hein. La description comportementale de chaque acte de la vie, qui est à mon avis un délire. Et du coup, ce que vous avez naturellement, des thérapeutes qui combattent ça, et ils ont parfaitement raison, mais surtout les patients qui ne veulent plus entrer dans ces nomenclatures et qui demandent à sortir de la psychiatrie. Je vous rappelle que le premier mouvement des homosexuels, c'était de plus être considérés comme des malades mentaux. Donc, quand il y a une errance de nomenclature, c'est le cas en psychiatrie, mais c'est aussi le cas d'une certaine psychanalyse dogmatique et figée, qui est, voilà, on applique une nomenclature, ça ne marche pas. Donc, il faut aussi, et pour les patients, changer de clinique. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les fondamentaux. Il faut changer de clinique. Il faut écouter les souffrances subjectives d'aujourd'hui un peu autrement et pas ramener revoir le nom du père de façon archaïque. J'ai entendu des psychanalystes dire telle évolution de la société, elle n'est pas conforme au complexe d'Édipe. Écoutez,
bon, alors justement, c'est intéressant que vous disiez ça.
Non, mais ça ne va pas. C'est une proposition qui n'est pas acceptable.
Attendez. Mais justement, là, j'en viens à un point qui m'intéresse, parce que à chaque fois que je cite un psychanalyste ou à quelqu'un qui est investi dans la cause de la psychanalyse, le nom d'un autre psychanalyste, je suis terrorisé parce que je ne sais pas bien où je mets les pieds. Est-ce qu'on va me faire la gueule, etc. Non, mais est-ce que j'ai lu dans votre livre que Freud avait des amitiés tumultueuses. L'ami devenait à un moment donné l'ennemi, et donc sa vie, même intellectuelle, est jalonnée de ruptures retentissantes dont sa correspondance fait état. Et je constate aujourd'hui que le monde analytique est extrêmement divisé, que les querelles y prennent des formes paroxystiques, notamment sur la question de l'ordre symbolique, etc. Est-ce que c'est lié, en quelque sorte, à l'essence de la psychanalyse ? Est-ce que c'est, d'une certaine manière, les querelles de Freud avec Fliess ou avec Ferenczi, etc., qui se perpétuent aujourd'hui ? Qu'y a-t-il dans la psychanalyse pour que les psychanalystes s'engueulent comme ça ?
Non. Oui et non. Ces querelles existent chez les anthropologues, chez les sociologues, chez les féministes, chez les socialistes. Bon. Donc, toute pensée qui apporte quelque chose de nouveau suscite un conflit permanent. Le jour où on discutera même plus de tout ça, ça voudra dire qu'on est dans un cimetière. Bien. Alors, qu'est-ce qui est spécifique à cette violence analytique que Freud d'ailleurs remarquait ? Pourquoi est-ce que l'exercice de la psychanalyse ne calme pas les psychanalystes des violences ? Alors, ça tient à beaucoup de choses. Je crois que les querelles, dans d'autres domaines des sciences humaines, ont lieu dans un cadre universitaire. Et donc, on ne peut pas dépasser certaines limites qui sont de l'insulte, de la... On est obligé de se tenir à un cadre universitaire. Très souvent, avec les psychanalystes, ils ont fait leurs institutions privées. Et en somme, ils se comportent comme si... C'est beaucoup plus sauvage par certains côtés. Alors, pour ramener au début... Est-ce qu'il y a identification au fait que Freud transforme toujours un ami masculin en un ennemi ? Peut-être, mais ça tient aussi cette structure très particulière du mouvement psychanalytique qui a été obligé de faire ses propres institutions, de se diviser en écoles et des écoles qui rivalisent. C'est pas mal, je crois. Moi, je les ai étudiées, j'ai fait leur histoire. Il y a un point, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, et je le dis vraiment très calmement, pour appartenir aussi au monde de la psychanalyse, ce qui fait défaut aux psychanalystes, toutes tendances confondues, c'est la méconnaissance de leur histoire. Et donc, il faut repasser par l'histoire.
C'est la connaissance de leur histoire, oui, d'accord.
Oui, de leur histoire. C'est-à-dire, ils peuvent être de très bons cliniciens, se quereller ce texte, ils ne connaissent pas leur histoire.
Et vous, Védi Vensmar, qu'est-ce que vous pensez de ce climat querelleur ?
Moi, je remarque qu'en effet, il y a de la polémique. Et cette polémique, à mon avis, on la retrouve chez deux sortes de... Spécialement aujourd'hui, chez les psychanalystes, mais chez les économistes aussi, vous remarquerez.
Oui.
Et pourquoi ?
C'est vrai.
Parce qu'ils touchent à des objets, des objets qui sont d'actualité et qui ont des conséquences pour les gens dans leur actualité. Mmh. Et donc, là où il y a... Il y a le feu tout le temps. Hein, quand vous parlez de l'inconscient, ce n'est pas comme ça.
Oui, il y a le feu, c'est vrai.
Il y a le feu. Et je crois que c'est la raison. Et c'est pour ça que l'objet... En fait, il y a une actualité toujours enflammée de l'inconscient. Au moment même où je parle, à cet instant même, il y a quelque chose qui me travaille et qui me pousse à peut-être dire plus que ce que je ne peux dire.
Non, vous avez été très prudent.
N'ayez pas peur. J'essaye.
Non, non. Alors, je terminerai sur une dernière question. Quelque chose d'énigmatique, Elisabeth Rudinescu, dans l'exergue de votre propre livre. Vous citez cette phrase de Sartre. Le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'Œdipe, c'est la limite même de sa liberté, c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Or, on pense que, avec Freud, on a pu renverser, en faveur de l'homme de désir, la hiérarchie traditionnelle de la raison et des pulsions. Ce que dit Sartre, c'est qu'il y a autre chose que cette opposition, peut-être ça a un rapport avec ce que Platon appelle le thumos, le courage, l'ardeur, et que, évidemment, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, etc., c'était le plus important, car c'est là qu'un homme se révèle. Mais pourquoi avoir mis ça en exergue de la biographie de Freud ?
Parce que je conteste la psychologisation de l'Œdipe sous forme de complexe, que je trouve admirable le retour à Œdipe, mais pas sa transformation en psychologie des familles. C'est un débat très sérieux. Et que d'autre part, naturellement, si on réfléchit bien, c'est tout Freud. La question de la mort, de la résistance, des supplices, etc. Il a vécu une époque terrible. Et je suis enfant de la résistance. J'ai des parents résistants et je considère que c'est ça le vrai engagement. Contre la barbarie, j'aime beaucoup cette phrase de Sartre qui est d'ailleurs dans un contexte puisque Sartre n'a pas été résistant. Il a été dans la tête,
oui.
Pas dans les actes. Vous le savez parce que vous l'avez analysé. Et puis, je voulais qu'on cesse de considérer Sartre comme un anti-freudien, qu'il n'a jamais été. Il a publié, il a collaboré au film de John Huston et puis on a publié le scénario Freud, qui est un texte admirable. Il a compris quelque chose d'essentiel dans Freud, c'est-à-dire ce combat intérieur à lui-même, qui est aussi très sartrien. Donc, Freud est un personnage sartrien, Sartre est un personnage freudien, on va le dire comme ça.
Très bien, mais en même temps,
je crois que Sartre, il a raison en partie, c'est-à-dire que le secret d'un homme est intraitable, n'est pas modélisable. Par contre, l'affaire de la psychanalyse de Freud n'est pas le secret. Le secret peut être un élément, mais la question fondamentale, c'est l'insu qui gouverne les êtres humains. Et l'insu, c'est tout autre chose que le secret. Justement, l'insu peut venir à être connu, à être su. Et donc, la tentative de Freud a été de modéliser un peu, de proposer un modèle qu'il n'a pas cessé d'ailleurs d'essayer de faire et refaire. Et après lui, les psychanalystes aussi ont essayé de le faire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth Rudinesco. Et Fethi Ben Slama, je rappelle, Elisabeth Rudinesco, que vous avez écrit Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre aux éditions du Seuil. J'ai cité également, Fethi Ben Slama, votre déclaration d'insoumission à l'usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas. Mais vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'étranger revisité ». Mes invités seront Kamel Daoud et Alain Vercondelet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Manuel Couturier. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, découper la France, les rebonds d'un long débat.